Bonjour le Book Club, bonjour Agnès Dessart. J'ai lu L'Oreille Absolue et ça a été une vraie bouffée d'air frais au sein de cet été caniculaire. J'ai été émerveillée par la façon dont vous mêlez les grands chagrins, les petits espoirs ou inversement, avec une douceur incroyable dans ce roman choral si musical.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Rien ni personne ne meurt aujourd'hui dans votre book club et c'est tant mieux car il n'y a plus de place au cimetière. Au cœur du dernier roman d'Agnès Dessart, une ronde de personnages gravite autour d'un ensemble musical prêt à jouer dans la salle des fêtes du village pour Noël. Et ce roman emprunte un peu à la ritournelle du conte de Noël, hanté par la mort, les regrets, les amitiés et les amours passés, mais poussé aussi par une musique bien vivante où l'harmonie vient autant de ce que l'on parvient finalement à jouer ensemble que de la beauté des infimes variations aux répétitions de la vie. Agnès Dessart publie L'Oreille Absolue aux éditions L'Olivier en cette rentrée littéraire et elle est notre invitée. On n'aura pas de mal à trouver dans son roman quelques pages musicales pour jouer à notre grand jeu de la fin. On est ensemble pour une heure. Accordez vos violons. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Agnès Dessart.
Bonjour Marie Richeux.
L'Oreille Absolue, c'est le titre de votre livre paru aux éditions de L'Olivier. On est ravis de vous recevoir à ce micro. Ça aussi, c'est un rendez-vous qui fonctionne comme ça, de temps en temps, quand vous avez un livre qui sort. On a la joie de vous accueillir. Merci d'honorer à chaque fois nos invitations. Vous savez, ici, tout commence par un questionnaire lecture. On pense que l'on fait de mieux en mieux connaissance avec nos invités en leur faisant parler de plus en plus des livres et de la manière dont ils ont appris à lire. Vous aviez consacré un livre en 2013 qui s'appelait « Comment j'ai appris à lire ?» Mais vous avez aussi raconté, je crois que c'était au Nouvel Observateur, une action dans une école primaire, Requeller à Paris, où un petit garçon rapporte cette expérience sensorielle et physique, vous dit « Voilà, je suis dans un endroit, je suis en train de lire, ma mère m'appelle pour venir quelque part et je n'y vais pas. Où est mon corps? Où je suis quand je lis ?» Pourquoi est-ce que cette conversation avec cet enfant, merveilleuse question, peut être une bonne piste pour parler de lecture avec vous, Agnès Dessart?
C'est une bonne piste parce que vous l'avez trouvée, c'est déjà pas mal.
Merci.
Donc, félicitations.
What point?
Et c'est une parole qui m'a énormément touchée parce que déjà, elle venait d'un lecteur qui n'avait pas encore réfléchi à ce qu'était pour lui la lecture. Donc, on peut pas parole plus spontanée, plus vraie. Et puis aussi, il était étonné lui-même de... En fait, dans sa question, il y avait une forme de détresse et d'étonnement parce qu'il a vraiment dit mais où je suis quand je lis? Tout à coup, il s'est rendu compte, il disait, c'est quand même bizarre ce truc. Et c'est ça aussi qui m'est resté pour toujours, c'est-à-dire cet étonnement et l'étonnement qu'on peut ressentir, je trouve encore chacun quand il y a certains livres, on les lit, on les trouve très bien, voilà, c'est merveilleux de lire ça. Et puis il y a d'autres livres où quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes bien, vous êtes dans un espace protégé, vous savez pas ce qui vous arrive, mais vous dites, oh là là, dans ce livre-là, je me sens tellement bien, que vous avez pas envie de le finir. Et quand vous y êtes, vous oubliez tout, vous oubliez les chagrins, ce qu'il y a à faire, etc. Et cette sensation-là, une fois, quand vous l'avez éprouvée une fois, vous savez que vous allez la rééprouver. Parfois, certains livres, d'ailleurs, vous déçoivent parce qu'ils vous font pas le truc, là. Ce truc de plus savoir où vous êtes.
Qui n'est pas nécessairement, d'ailleurs, vous dites, un endroit où on est bien, mais ça peut être juste une modification de texture, de temps, de corps, de...
Ah oui, c'est pas forcément, c'est pas ce qui est, comment dire, très en vogue maintenant, qui est le confort, parce que le confort, c'est un des mots qui nous fait le plus de mal, je crois, ces derniers temps. Donc c'est pas ça, c'est pas le livre doudou. C'est pas le livre où tout est tellement sympa qu'on se sent mieux. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est plus fort que... c'est plutôt une concurrence avec le réel. C'est une force esthétique ou c'est une force imaginaire qui l'emporte sur le réel avec tout ce qu'il peut avoir de pesant ou d'ordinaire ou de voilà, c'est juste un autre lieu, surtout ça dessine un lieu dans lequel il y a certaines lois qui sont abolies. Je pense que c'est beaucoup ça la magie de la lecture, c'est que les lois habituelles de la gravitation, du temps qui passe dans un sens et pas dans l'autre. C'est surtout ça, d'ailleurs, c'est le rapport au temps, beaucoup.
Oui, souvent, vous signalez à ce propos, parmi les lois abolies, que dans la littérature, la mort n'existe pas, que c'est voilà. une des lois qui s'absente, qui se soulève.
Voilà, très bien.
C'est intéressant parce que, au final, cette formulation d'enfant et cette inquiétude, elle va aussi de pair avec quelque chose qui s'absente et qui se soulève. Parce que quand il dit « où je suis quand je lis », c'est bien qu'il a constaté
ah oui.
qu'il y a quelque chose de son corps, de sa physicalité qui s'est modifié pendant la lecture.
Et même le moi, ouais. c'est aussi ça qui est génial. C'est que le... Parce que ça aussi, c'est quelque chose de... comment pour moi, c'est une scie de la littérature. C'est est-ce que je me suis identifiée au personnage ? Ah, ben non. Et alors ? Voilà, c'est pas... pour moi, ça c'est vraiment le premier degré de... Est-ce qu'il faut vraiment s'identifier ? Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, quand une lecture fonctionne, moi n'existe plus. Mmh. Donc on ne sait plus qui c'est, moi. Donc on ne sait pas s'il va être blond comme la princesse ou brun comme la princesse. Il est dissous. Et c'est... En tout cas, moi, en tant que lectrice, c'est cette expérience-là que je cherche, la dissolution totale de l'identité.
Mais c'est aussi pour cela que ça en fait une expérience, quand elle est belle et quand elle est réussie, d'inquiétante étrangeté. Et j'ai envie de rester encore avec ce petit garçon et cette question « Où je suis quand je lis ?» Agnès de Sartre, d'une part parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui ont pris le chemin de l'école ce matin, et ça nous permet de penser à toutes celles et ceux qui vont apprendre à lire, quel que soit leur niveau. Et aussi d'aller du côté de cette expérience, c'est-à-dire que les enfants, quand ils ont la chance d'aimer ça, ou quand ils ont la chance d'être en contact avec les livres, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde malheureusement, ils connaissent le tourbillon. On les voit. On voit comme ils sont absorbés, comme s'il y avait une sorte de miroir archaïque qui pouvait nous retourner en disant « Rappelle-toi que l'expérience de la lecture, ça peut être cette puissance-là. »
Mais c'est y croire aussi. C'est-à-dire que la suspension de l'incrédulité, ce fameux principe
romanesque,
à l'œuvre dans le roman, est très s'atteint beaucoup plus facilement quand on est petit, parce qu'on pense pas que savoir, être sûr, pouvoir, je sais pas comment dire, maîtriser, donner des ordres est une chose absolument nécessaire dans la vie. On pense que c'est plutôt, par exemple, s'amuser, qui est une chose absolument indispensable.
Et sérieuse.
Et sérieuse, tout à fait. Et donc, ce muscle-là, qui permet d'interrompre l'incrédulité, il est beaucoup plus disponible chez les enfants. Donc il y a effectivement une leçon à prendre, parce que le fait de pouvoir arrêter de savoir ce qu'on sait pour essayer de comprendre ce que c'est, ce que le savoir d'un autre, c'est un voyage irremplaçable.
Et encore une fois, quand on dit le savoir d'un autre, c'est pas nécessairement un savoir sachant, c'est pas nécessairement une connaissance qu'on pourrait lister, mais parfois d'autres formes de savoir. Est-ce que récemment, dans les années écoulées, Agnès de Sartre, vous avez senti qu'un livre, une autrice ou un auteur, vous avez fait cadeau d'un nouveau savoir, et que ça vous avait un peu bougé, ou beaucoup bougé?
Alors ça m'arrive, j'ai de la chance, hein, m'arrive très souvent.
Ah ouais, bah ça c'est super quand même, non?
Et ouais, c'est extraordinaire. Et la dernière, le dernier qui, en fait, il y en a. Je lis deux livres en ce moment. Je suis très chanceuse.
Actuellement. Quoi.
Là vraiment, ils sont les deux. Ouais. Voilà, exactement. Ils sont l'un sur l'autre sur la table de chevet. Et de temps en temps c'est l'un, de temps en temps c'est l'autre. Et il y en avait un que j'avais déjà lu, qui était Amos Oz. Et là je lis une histoire d'amour et de ténèbres.
Il est aussi sur ma table de chevet.
Et je veux qu'il s'arrête jamais d'être sur ma table de chevet. Et c'est incroyable ce que me fait ce livre. Et je ris, et j'ai le cœur serré, et je suis bouleversée, et je repars dans l'enfance, et je m'en éloigne, etc.
Et il l'autre, est gros, hein. Moi, je l'ai en poche sur ma table de chevet.
Aucun problème.
Aucun problème.
Mais non, aucun problème.
Non,
900 pages, mais rien.
C'est juste que comme je présente le book club et que j'ai 2-3 livres
oui,
à lire.
Oui, mais je sais pas. Moi, je lis très lentement, et celui-là, c'est, voilà. Ça
bruit.
Va très vite, presque trop vite. Et l'autre livre qui est très, très gros aussi, c'est Panait Istrati, mais c'est gros parce que c'est les œuvres complètes que la mère d'un ami de mon fils a eu la bonne idée de m'offrir sans savoir si j'aimais cet auteur. Et ben d'ailleurs j'aurais pas pu lui dire parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai dit alors il y a des gens à qui j'ai dit je lis ça, c'est bien, ils font oui. Ah bon, c'est très 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 connu.
Je suis très
rassurée, Marie Richeux, que vous
jamais
vous dites ah bon. Et ben c'est un auteur roumain. Et qui a en plus la particularité, c'est une particularité qui m'est très chère, c'est un de ces rares auteurs qui n'écrit pas dans sa langue maternelle. Il a appris le français, je crois, une trentaine d'années. et il écrit un français miraculeux, mais comme Joseph Conrad écrivait en anglais, c'est toujours une langue plus, je sais pas comment dire, presque plus authentique que la langue parlée par les gens qui la parlent, parce que c'est qu'une langue écrite. Et c'est extraordinaire. Et donc ça se passe dans ces pays qui changent tout le temps de nom, là, où ça peut être en Roumanie, mais il y a des Grecs, mais il y a aussi, mais ça se passe aussi en Égypte, donc on voyage pas mal. Et puis, c'est le volume que je suis en train de lire, en tout cas, parce que c'est comme c'est les œuvres complètes, ben, je me promène. Et là, c'est la fin de l'enfance et la jeunesse, et comment on se débrouille, comment on devient jeune homme, comment on apprend un métier, comment on n'y arrive pas, comment. Et c'est merveilleux tout le temps, et j'essayais de décrire pourquoi c'était bien.
Oui, j'allais vous demander.
Comme tous les grands livres, on ne peut pas dire, on se dit juste, c'était ça qu'il fallait dire sur ce sujet. Mmh. Voilà. Il fallait parler des cafés, il fallait en parler comme ça. Et quand il en parle, je veux jamais qu'on me parle autrement d'un café.
Mais c'est ça qu'on appelle un certain savoir qui nous serait transmis, oui, par une langue, par un roman,
c'est la justesse. L'observation, la précision de l'observation. C'est un regard, en fait, c'est ça. Un regard qui se traduit très précis, qui se traduit par une voix très spécifique, on pourrait dire ça.
Est-ce qu'il y a des moments de votre vie où vous n'avez pas lu ?
Oui, oh là là, tellement.
C'était bon signe, mauvais signe, moyen signe ?
Quand j'étais enfant, c'était très bon signe parce que j'aimais pas ça, donc autant pas le faire si on n'aime pas ça. Après, il y a eu des moments, alors là où c'était moins bon signe, il y a eu des moments de grand chagrin où je n'arrivais plus du tout à lire, et à ce moment-là, je ne pouvais lire que du Simenon. Alors bon, c'est bien, il a écrit énormément de romans, je le remercie, parce que je ne pouvais rien lire d'autre.
Et la littérature n'était pas un recours au chagrin, à ce moment-là.
J'arrivais pas à me concentrer, il fallait cette espèce de, je sais pas comment dire, d'alibi. Il y a cette ambiance comme ça de mystère où on sait pas qui fait quoi, comme dans les, mais même c'était même pas forcément les romans policiers de Simenon, c'était autre chose, c'était peut-être retrouver une atmosphère. Et donc il y a eu plusieurs fois, plusieurs mois dans ma vie où je n'ai lu que du Simenon. Alors c'était bien et je suis très contente que ça existait, mais c'est pas un très bon signe quand j'arrive pas à lire. En ce moment, je lis deux très gros livres. Ouais. En même temps, on peut dire que
tout va bien.
Ça va. Ouais, à peu près.
On va parler de votre roman tout juste sorti, L'oreille absolue, juste après cette reprise sublime d'une sublime chanson de Jacques Brel par un groupe qui s'appelle Birds on a Wire. La chanson s'appelle Sur la place. Elle a été écrite en 1954 et elle décrit une femme qui se met à danser sous le soleil sur une place de village, et tout autour d'elle se met à tourner. Elle devient comme la métaphore de ce qui vit, d'un cœur qui bat, et parfois ce côté vivant est insupportable à certains qui les renvoient à ce qui ne bat pas en eux. Brel écrit « À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. »
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil, danseuse d'antiquité, mais sur la ville il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains s'est mise à chanter, et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi certains jours paraissent. comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes et leur destinée.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Dans le roman au programme de votre book club cet après-midi, les habitants d'un village sont liés par la somme de 5 euros, un petit pari d'enfant. Ils sont liés par une noyade ou une ancienne amitié, un désir intact et un ensemble musical s'apprêtant à jouer pour Noël. Vous voyez ce petit temps qui précède les premières notes jouées par un orchestre. Les musiciens s'y accordent, on les regarde, on les écoute et avant qu'ils n'unissent leur musique, on les voit et on entend dans leur singularité. Mais on les entend en même temps. Eh bien, c'est un peu la sensation que produit votre dernier livre, Agnès de Sarthe. Avant l'harmonie ou pour la composer, il y a les aspérités, les drames, les merveilles, les douleurs de chacun. Il est question peut-être de sortir d'un piège et même s'il faut perdre une patte, l'oreille absolue apparue aux éditions de l'Olivier. Avant que la musique ne commence dans ce livre, Agnès de Sarthe, et avec la promesse de celle-ci, vous décrivez la géographie et l'espace de ce village. Vous la décrivez très précisément, cette géographie, en vous rendant, comme ça, avec la caméra de votre écriture, à un conseil municipal. Pourquoi est-ce que cette géographie-là, et peut-être la mesure qu'elle induit, vous intéresse pour ce livre ?
Alors c'est difficile à dire pour quelqu'un surtout comme moi qui ait la réputation, pas usurpée du tout, d'être nul en géographie. La géographie m'a très longtemps posé problème et aussi j'avais toujours l'impression que je savais pas où j'étais, je me perds très facilement et aussi que la France était un pays très compliqué. La liste des départements, les trucs comme ça, savoir où se trouve l'Ain, très difficile. Voilà, j'avais aucune vue d'ensemble. Et puis, il y a 8 ans, j'ai quitté Paris, Paris qui est nulle part et partout. Et c'est la première fois que j'ai eu l'impression d'habiter dans un lieu et de comprendre ce que c'était que la géographie, c'est-à-dire...
Mais comme trouver sa bonne mesure, quoi ?
Trouver à quel point c'était...
Une bonne échelle ?
Non, aussi comprendre les distances, où se trouvait le ciel, la terre, la mer, je sais pas. C'était comme des travaux pratiques de géographie pour la première fois de mon existence. Et je pense que ça m'a énormément touchée, énormément bouleversée. Aussi le fait de marcher pendant des kilomètres et de regarder le paysage changer ou ne pas changer, ça aussi c'était particulier.
Et vous diriez que ça a influencé la géographie de ce roman-là ?
Ah oui, c'est sûr. Et ouais, c'est certain parce que j'avais des images très précises en tête et aussi il y avait eu des moments de contemplation qui ont germé, c'est-à-dire que le fait de je sais pas, par exemple le givre qui est très présent dans ce roman, cette qualité différente de givre, de la gelée blanche, du craquement de l'herbe sous le pas quand l'herbe a gelé, justement tout ça, c'est des sensations et la nuit aussi, l'importance de quand c'est la nuit, c'est la nuit. Quand on habite en ville, à 17h, en plein hiver, on n'a pas fini du tout, hein. Eh ben, quand même, parfois, à la campagne, à 17h, quand c'est la nuit, mais c'est la nuit. Et c'est très différent. C'est des sensations, ça peut pas dire qu'on peut rien faire. Pas du tout. Il y a des tas de gens qui commencent même leur journée à ce moment-là. Mais, il y a cette force éléments, de l'épaisseur de l'obscurité, et tout ça, ça crée forcément des conditions d'observation et donc de restitution, de vouloir restituer quelque chose de ce qui a été vu à ce moment-là.
Là, par exemple, vous êtes tout à fait en mesure, Agnès de Sarthe, de faire le lien entre ce que je relève de l'espace de ce roman-là et quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui est venu avec des nouvelles sensations, des nouvelles images. C'est le cas de votre travail. Vous êtes consciente de ce qui entre dans votre écriture, de comment elle est travaillée, de par quoi elle est travaillée. Vous êtes sensible à ça ?
Enfin, oui, j'y suis sensible, mais c'est toujours après coup. Mm. Et je cultive avec beaucoup de ténacité mon imbécilité. Mm.
Elle est précieuse, pourquoi ? Oui, parce que j'adore. Bah, parce que moi, je crois beaucoup à l'idiotie, je pense et que c'est une qualité.
Mais ça me rassure. Donc, le fait que quand je commence un livre, je ne sais pas pourquoi je l'écris, je ne sais pas ce que je vais faire, et je n'ai aucune idée d'où ça vient. Mm. Et c'est très bien comme ça. Et il ne faut surtout pas que je comprenne ce que je fais. Moins je comprends, plus c'est spontané, plus ça va m'emmener là où je ne savais pas que je pouvais aller.
Et
tant mieux. Parce que moi est inférieure à l'instance qui s'occupe de mes livres et dont je connais ni l'adresse ni le nom.
Mais qu'on salue quand même.
Voilà, au passage.
De loin, oui, au passage. Oui, oui. La radio, ça sert à ça. Il y a des ondes, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le village, ça veut dire aussi souvent ben, des gens qui peuvent se connaître, des destins qui ont été peut-être un tout petit peu plus entrelacés que dans des grandes villes, quoique ça se discute éventuellement à Nice de Sarthe, mais ça aussi produit quelque chose sur la manière dont vous avez, de manière très savante, là pour le coup, mais d'un point de vue de l'écriture et de l'intrigue romanesque, entremêlé les destins de vos personnages.
Ça m'a frappé aussi de passer de l'anonymat à son contraire. Qui s'appelle le nonima, je pense. Mais je ne sais pas si c'est un nom. Qui est que tout le monde sait
qui fait quoi,
qui fait quoi, à quelle heure. Oui,
avec qui ?
Un jour, il y a un gars qui est passé chez nous et que j'avais jamais vu et qui m'a dit « Bon, votre voiture, là, vous la prenez jamais, vous voulez pas me la vendre ?» Et je me dis « Mais comment ? Qui c'est ?» Il sait que c'est ma voiture. Moi, il sait que je ne la prends jamais. Et je me suis dit,
et que j'ai peut-être le projet de le vendre.
Oui, où est-ce qu'il est quand il regarde ça? Et en fait, il n'y a pas besoin. En fait, c'est un sentiment qui peut paraître menaçant. Mais en fait, il suffit de l'accepter et de se dire que aussi, le jour où on se casse la jambe dans son jardin et qu'on peut plus se relever, il y a peut-être quelqu'un qui va passer et qui va dire « Bah alors, qu'est-ce que vous faites par terre ?» et qui va vous aider, par exemple. Donc, ça marche dans les deux sens. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce que c'était que être à côté par rapport à être ensemble et se connaître et s'apprécier, se connaître et se haïr, se côtoyer en s'appréciant, se côtoyer en se détestant. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on habite dans un endroit pas très grand, on est beaucoup plus obligé de réfléchir à toutes ces interactions et à comment elles peuvent se déployer et avoir lieu. Et on peut pas s'en sortir en se disant je change de trottoir et de toute façon personne m'a vu parce qu'on est des millions à traverser cette rue chaque jour et c'est chaque jour j'ai des gens différents.
Et ce roman ausculte la moindre de ces relations en les choisissant évidemment, et je précise bien que ce sont des relations qui peuvent être à la fois d'enfant à enfant, ce serait plutôt le début du roman avec un pari et puis l'idée d'une disparition pour jouer, ça pourrait être plein d'adultes en même temps autour d'une table de conseil municipal, ça peut être plus tard plusieurs musiciens ensemble qui vont jouer. On sent aussi que les curseurs des différentes relations possibles dans cet espace-là vous intéressent, Agnès de Sarthe. Venons-en à la structure, c'est évidemment l'un des grands plaisirs de ce livre de l'oreille absolue. On va juste lire deux fois ce paragraphe qui se répète pour entendre les infimes variations. Évidemment, elles sont plus grandes, ces variations, au fur et à mesure que l'on entre dans le roman et on les goûte de plus en plus, mais c'est juste pour donner à entendre.
C'est un hiver où rien ni personne ne doit mourir. Les rosiers continuent de porter des fleurs, plus chétives qu'au printemps, moins parfumées qu'en été, aux pétales décolorés, presque transparents. Les framboisiers laissent pendre leurs petits visages rouges, comme honteux, sous les feuilles recourbées. Les oiseaux poussent leurs cris vigoureux au cœur de la nuit, sans craindre les éperviers, pas plus que les martres ou les chats. Les mouches, gorgés de la canicule passée, poursuivent leur vol paresseux, insensibles au froid qui crispe pourtant la rosée du matin. C'était un hiver lumineux et sec, où rien ne semblait vouloir mourir. Les rosiers continuaient de porter des fleurs, plus chétives qu'au printemps, moins parfumées qu'en été, aux pétales décolorés, presque transparents. Les framboisiers laissaient pendre leurs têtes rouges, qui avaient l'air presque honteuses lorsque le dernier éclat du soleil allait les dénicher sous les feuilles. les oiseaux lançaient leurs cris au cœur de la nuit, sans craindre les éperviers, pas plus que les martres. Gorgés de la canicule passée, les mouches poursuivaient leur vol, insensibles au froid qui crispait pourtant la rosée du matin.
On parlait de choses qui se côtoient. Là, on a mis côte à côte la page 15 et la page 108, Agnès de Sarthe, pour faire entendre ce paragraphe et toutes les manières dont on le voit miroiter au fur et à mesure de ce roman, L'oreille absolue. Comment en êtes-vous arrivée à cette structure ?
C'est ça à voir avec un des sujets du livre qui est la musique et la façon dont... dont la musique elle-même se construit, comme on l'a entendu avec cette chanson de Brel reprise par ce groupe que vous avez nommé tout à l'heure.
Birds on a Wire.
Voilà, Birds on a Wire. On peut avoir un thème, et c'est même la joie de la musique, d'avoir un thème et de le reprendre et de le modifier. C'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle les variations. Beaucoup de musiciens ont écrit des variations à partir d'un thème de leur cru ou du thème d'un autre compositeur. Et puis, il y a le système du refrain. Le refrain aussi, c'est quelque chose de très précieux dans la chanson. Mmh. La chanson, c'est la musique populaire. C'est la musique que tout le monde peut reprendre en chœur. Et il est beaucoup question de chœur dans ce roman. C'est-à-dire comment... faire de la musique ensemble et puis tout simplement comment être ensemble. Et aussi le refrain, il y a quelque chose, ce qui fait que les gens le reprennent, c'est que comme il revient plusieurs fois dans la chanson, si on a oublié le couplet, au moins on se souvient du refrain. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le fait qu'il puisse y avoir, qu'on puisse être rejoint sur le refrain par toutes sortes de personnes qui chantent bien, qui chantent mal, qui chantent juste, qui chantent faux, peu importe le moment où vous le savez. Alors vous vous lancez et vous y allez. Et cette espèce de drôle de sentiment, de risque et de confiance mêlée, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc ce qu'on a entendu, c'est à la fois un refrain et une variation, puisqu'il y a des très légères modifications à chaque fois.
Vous parlez de la joie de la répétition et en écoutant Cyril Marchand lire ces deux extraits de votre roman, j'avais un sourire et je pense à quelque chose qui a trait là à votre écriture. Donc ça va évidemment pas être une question mais plus une remarque, on verra ce qu'on en fera Agnès de Sarthe, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un sourire qui n'est jamais un sourire de l'ironie, qui n'est pas non plus l'éclat de rire. Je sais pas pourquoi je souris, mais c'est le fait que ça, là par exemple, le fait que ça se répète, et que j'entende les trouvailles de la langue, des images, qui fait que ça se répète, mais que ça varie. Je souris. Alors, pourquoi je souris? Et pourquoi peut-être on sourit souvent en vous lisant, quels que soient vos livres, Agnès de
Sarthe? Alors, moi, je ne les lis pas, donc je ne peux pas. Je ne sais pas. Mais je me dis peut-être aussi qu'il y a... on parlait tout à l'heure du regard. Et par exemple, peut-être que aussi c'est... le visage d'une framboise qui vous regarde sous une feuille, comme si c'était sa casquette. Mais je pense que c'est une sensation que vous avez peut-être éprouvée, peut-être sans la nommer sur le moment, mais que beaucoup de gens qui cueillent des framboises, on n'a jamais fini de cueillir les framboises parce qu'il y en a toujours une autre sous la framboise, sous la feuille qui cachait. Comme c'est pas des fruits qui se dressent, ce sont des fruits qui ont l'air toujours un peu cachés ou qui ont l'air de faire une petite tête comme ça penchée. C'est peut-être ça aussi, c'est le fait de regarder, de s'attarder, et c'est peut-être à ça que servent les écrivains, c'est à s'attarder sur des moments qu'on a traversés peut-être fugitivement, mais nous on dit, bon, on va s'arrêter pendant toute une phrase là-dessus.
Alors au début de ce roman, je l'ai dit, deux enfants se cachent et puis l'un d'eux va atterrir chez un homme. Manifestement, cet homme a l'intention de se suicider. Je vais m'arrêter là, mais cette rencontre va suspendre cette intention qui allait vers la mort. tout ce qui pourrait aller vers la mort dans ce roman est suspendu, voire empêché. Même la patte d'un chat pris dans un grillage. C'est sur ce chat que s'est arrêtée, entre autres, Séverine, notre auditrice. Elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie, bonjour Agnès de Sarthe. J'ai lu L'Oreille absolue et ça a été une vraie bouffée d'air frais au sein de cet été caniculaire. Vous m'avez fait appartenir à ce village monde où j'ai eu une tendresse particulière pour chacun de vos personnages. Enfin, surtout un, et mon chat, lui, vous direz aussi qu'ayant vécu la même mésaventure que Valentin, il s'est beaucoup reconnu en lui. Et c'est cette scène récurrente qui revient comme un refrain qui nous a beaucoup touchés, lui et moi. D'ailleurs, Agnès de Sarthe, ne serait-ce pas Valentin, le grand héros de votre roman ?
Merci beaucoup Séverine. D'ailleurs, en réécoutant votre question au casque, on entendait les oiseaux derrière votre voix. Merci pour cette question Agnès de Sarthe. Ce chat Valentin qu'on retrouve régulièrement, qui est dans une petite galère, il va s'en sortir, mais pas sans mal, pas sans douleur.
Ouais, parce que c'est le chien que la rêveuse secrétaire de mairie, Mariette le Garni, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus très bien, mais en tout cas c'est son chat qu'elle a appelé Valentin pour se porter chance en amour. Et ce chat, on va le voir. Et il est effectivement dans une petite galère parce qu'il s'est pris la patte dans un piège à renard et donc il va patiemment s'amputer lui-même de cette patte pour pouvoir se libérer du piège. Alors, merci beaucoup Séverine pour cette lecture. C'est vrai que c'est un des motifs qui revient et qui peut être perçu comme un s'il y avait ça, c'est une possible clé, si toutefois il y a une clé à ce qui arrive à tous les personnages, c'est-à-dire que le résultat pour arriver à avancer. En fait, on peut voir aussi la vie comme une suite d'amputations. Philippe Catherine en parle très très joliment.
C'est vrai ?
Dans une de ses chansons, ouais.
Quelle chanson, vous vous souvenez ou pas ?
Comment se fait observer les plantes, c'est très instructif. Est-ce qu'elle s'appelle Observer les plantes, cette chanson ? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est une chanson dans laquelle il parle de l'amputation pour pouvoir continuer à vivre.
C'est-à-dire par exemple le fait qu'on les taille, les plantes ?
Oui. Ouais. Et puis que soi-même, en fait, une plante, elle perd, un rosier, il fait des fleurs qui meurent sur lui et qui tombent pour que d'autres fleurs puissent venir.
Éclore.
Les plantes n'arrêtent pas de faire ça, de perdre des feuilles ou de s'alléger, où il y a une branche qui tombe et puis l'arbre repart, et c'est un... et c'est quelque chose qu'on fait sans arrêt, nous aussi les humains, mais qui se manifeste pas de manière aussi récurrente, parce que ça n'a pas à voir avec les saisons, pas seulement en tout cas. Mais on n'arrête pas de renoncer ou de s'amputer de certaines choses, mais on s'allège. Même si c'est, alors on peut aussi le vivre sur le mode de la nostalgie, c'est-à-dire se dire, regardez, oh là là, tout ce que j'ai perdu, c'est terrible, j'ai tant perdu, ou je renonçais à tellement de choses. Mais c'est aussi pour moi la condition de la survie. Et si on le voit comme ça, on se dit que c'est plutôt vivre et puis de prendre comme une ruse, plutôt que comme un abandon tragique, quoi.
Mais ce qui est aussi assez beau, c'est que ce chat, qui va donc littéralement ronger l'une de ses pattes pour se séparer de cette patte et sortir du piège, il fait pas complètement le lien entre ses différentes douleurs, il fait pas complètement le lien non plus entre différentes sensations. Par exemple, le sang de sa patte, désolé Cyril, il adore les chats. Le sang, oui, non mais bon, tout le monde, hein. Mais moi ça me fait rien alors que je sais que son cœur saigne. Le sang chaud qui coule sur sa patte, ça pourrait être quelque chose d'agréable pour ce chat, par exemple. Pendant ce temps-là, c'est horrible ce qui se passe pour le reste de... Et je trouve que ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui nous servirait de métaphore pour les autres personnages. C'est-à-dire que parfois, ils ne font pas complètement ou pas tout de suite le lien entre différentes douleurs. Ils ne font pas complètement ou tout de suite le lien entre un événement du passé, une sensation physique du présent. Et la musique de votre écriture, Agnès de Sarthe, les aide à se relier à eux-mêmes.
Peut-être, mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que il y a une illusion, j'ai l'impression, commune sur la qui concerne, je sais pas comment dire, le pouvoir d'introspection qu'on aurait et surtout qu'on aurait acquis grâce à la vulgarisation par exemple de la psychanalyse puis de la psychologie. Et en vérité, ce qui fait que la psychanalyse continue d'être tout à fait utile et fascinante et intéressante et révolutionnaire, c'est qu'en vérité, on n'a pas de pouvoir d'introspection. On croit qu'on l'a, et c'est ce qu'on peut appeler la psychologie de paillasson, qui, elle, porte très bien son nom, c'est-à-dire que ça s'arrête à la porte de l'inconscient.
Mais on vers le confort.
Voilà, mais on a cette impression, on se dit « Ah oui, je me sens comme si », parce qu'on entend plein de conversations qu'on n'aura jamais entendues il y a 50, ou encore moins il y a 100 ans, et alors, il y a 150 ans, j'en parle même pas, sur « Ah bah oui, je me sens comme ça parce que ceci, parce que cela », et on a l'impression qu'on en sait tellement sur soi, et on sait tellement rien de plus qu'avant, on a juste beaucoup plus de discours, et donc moi, je trouve ça très touchant de voir... de me voir et de voir les autres se débattre dans des douleurs où on dit, c'est comme si on disait j'ai mal à la tête alors qu'on avait le pied écrasé par la roue d'un camion. Mais on passe son temps à faire ça. Mmh. Moi je trouve ça assez rigolo.
Et beaucoup, encore une fois, parce que je reviens à ce que disait Séverine qui dit « j'ai eu de la tendresse pour chacun de ces personnages », mais en effet, ces douleurs de tête, alors qu'on a le pied écrasé par un camion, ça pourrait prendre différentes formes chez chacun des personnages et habitants de ce village. On va écouter un autre extrait de l'oreille absolue, précisément le moment où il en est question de cette capacité d'oreille absolue, un nouvel extrait de votre roman.
Avant, quand sa mère l'emmenait écouter l'harmonie, il se bouchait les oreilles parce qu'il y avait trop de notes qui fonçaient sur lui de partout. Comme sa mère ne l'amène jamais nulle part, il était content malgré tout d'y aller. Ça faisait un genre de fête, avec les applaudissements et tout. Et puis il pouvait se coucher tard. Et comme il n'est jamais fatigué, c'est mieux pour dormir quand il se couche tard. Mais c'était difficile de rester là, assis, sans bouger, surtout avec cette mitraillette de notes qui, en plus de la musique qu'elle faisait, hurlait leur nom tout en même temps. Il avait essayé d'expliquer à sa mère. Elle lui tapait sur les mains quand il les plaquait sur ses oreilles. « Moi non plus, j'aime pas ça », grognait-elle. « Mais faut se forcer. Quand on n'aime pas la musique, faut se forcer. » »« C'est pas que j'aime pas, c'est que ça fait trop de désordre avec les do et les fa, et aussi le si très aigu, qui fait encore plus mal, parce que c'est pas tout à fait un si. » Qu'est-ce que tu racontes et d'où tu connais les notes d'abord? C'était son père qui les lui avait apprises. Mais ça, Mathis ne pouvait pas le dire. Parce qu'il ne fallait jamais, jamais parler de son père à sa mère. Heureusement, depuis qu'il avait découvert le boum boum bim baba bim bam boum et qu'il était parvenu à l'isoler de tout le reste, il supportait d'écouter sans bouger, sans avoir à se boucher les oreilles. Il se concentrait sur ce qui sortait du tuba que tenait le gros monsieur, rien d'autre. Parce que les notes jouées par le tuba, elles jaillissaient sans hurler leur nom.
Un extrait de votre roman, Agnès de Sarthe, L'oreille absolue, où l'on comprend que ce petit garçon a manifestement l'oreille absolue, puisque quand il entend la musique, sauf le tuba, il est bombardé par le nom des notes. Peut-être avant de parler d'autres oreilles absolues dans ce texte-là et de celle de l'oreille que doit tendre l'autrice que vous êtes, comment vous êtes arrivée à cette capacité de ce petit gars d'entendre comme ça ou d'être comme ça disponible à la musique?
Ce qui m'a frappée, c'était quand j'ai entendu quelqu'un qui parlait du fait, c'est une jeune femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Eve et qui a été frappée, comme on est frappé d'une maladie, elle a attrapé l'oreille absolue dans son adolescence, elle l'a pas toujours eu. Et ça a été très très difficile à vivre parce que ça a modifié complètement son rapport au concert, son rapport à la musique amateur, parce que il y avait, comme je le décris là, en fait c'est comme si
une surinformation quoi.
Oui et puis une sorte de oui c'est comme voir un film avec les sous-titres plus l'audio description plus en fait on n'entend plus rien, ça fait une sorte de chaos. Et ça m'avait frappé que un don qui est aussi considéré, je sais pas, chez des petits musiciens débutants, il y a souvent ce truc d'espérer d'avoir l'oreille. Et toi, t'as l'oreille absolue. Ouais, je crois que j'ai l'oreille absolue. Vas-y, fais-moi un do. Vas-y, je te fais un. Et parce que c'est comme si c'était le nec plus ultra. Et que c'était ça qui allait faire un musicien, que c'est ça qui allait vous distinguer de tous les autres. Et en fait, que ce qui est un don soit aussi un handicap et qui vous empêche vraiment de vivre certaines choses ou qui les complique, c'est intéressant dramaturgiquement.
Puis ça fait aussi que d'un seul coup, quand il tend son oreille au tuba, qui est l'instrument joué par Raoul, c'est autre chose qui lui parvient. Et ce qui est assez beau, c'est que ça devient potentiellement un signe de reconnaissance. C'est comme ça qu'il va un peu mieux voir Raoul, ou qu'il va distinguer Raoul au milieu des instrumentistes.
Oui, parce qu'il est vraisemblable que Raoul, donc ce monsieur qui va se pendre et qu'il rencontre...
Et qui ne se pend pas.
Tout. T'as pas pu, oui, puisque personne ne meurt. Il a vraisemblablement aussi l'oreille absolue, vu que quand il joue, c'est toujours la note parfaite.
Et, c'est l'évidence, c'est ça qu'il lui dit.
L'évidence.
Ouais, il lui dit, tu vois ce que c'est l'évidence ?
Ouais.
C'est l'évidence.
C'est ça, c'est quand tu joues, il n'y a pas le nom de la note. Et il n'y a que la note. Et donc ça va sceller leur rencontre et leur complicité. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas le seul personnage à avoir ce. Ils sont pas que deux à avoir ce don. Il y en a d'autres. Ça tourne de toute façon beaucoup. Le roman tourne beaucoup autour de ce que c'est que entendre et écouter
et dire.
Qu'est-ce qu'on entend quand l'autre parle? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on entend sans écouter? Enfin, c'est un peu de ça que ça parle.
Et est-ce que l'écriture a à voir avec ça, Agnès de Sarthe? Est-ce que ça a à voir avec écouter, entendre? Parce qu'on dit beaucoup dire, écrire, dire, mais finalement...
Et puis c'est une autre façon d'observer, on va dire. Parce que pour moi, l'écriture, c'est beaucoup l'observation. Mm-hmm. C'est où on se place pour regarder quoi et combien de temps. Mais c'est aussi pour écouter. Et donc, par exemple, écouter les voix. Écouter les parler, les rythmes de parole de chacun. On peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de variations là aussi. Sur un dialogue, on peut même en peu de répliques, il suffit qu'il y ait une hésitation ou qu'il y ait un mot répété, une espèce d'altération du rythme pour qu'on sente que le personnage est peu sûr de lui ou au contraire trop sûr de lui, ou qu'on puisse deviner de quel milieu il vient, surtout parfois de quel milieu il ne vient pas. Et ça, c'est une question d'écoute. Et moi, j'ai l'impression d'avoir passé de très, très nombreuses heures, enfants en particulier, à ne faire qu'écouter et à être d'ailleurs stupéfiée par ce qui se disait. Ils s'en disent des trucs.
Écoutons la voix de Nathalie Sarraute dans une archive de 1972. Elle dit qu'il y a des jours où ça marche, l'écriture, puis il y a des jours où ça ne marche pas.
Il y a des jours où ça ne donne rien. Des ébauches horribles. Une page ou deux, absolument plates, qui sont à côté, où tout est à refaire. D'autres jours, où ça me paraît très bien, et je me dis, eh bien, je crois que là, je suis à mon meilleur, et je suis absolument ravie. Et quand je le relis le lendemain, je me dis absolument pas. J'étais entraînée par la forme, par l'écriture elle-même, et la sensation ne passe pas, c'est mort. Alors, c'est très difficile à dire. Il y a énormément de jours dans lesquels, justement, ça ne marche pas. Autrement, ça irait très vite si tous les jours ça marchait. En quelques mois, le livre serait fait. Je crois qu'il y a des écrivains qui ont ce bonheur de pouvoir écrire bien, rapidement.
Nathalie Sarraute, romancière, grande romancière française. Il me semble qu'elle est interrogée, enfin, elle parlait de tropisme en l'occurrence. Donc on est en 1972 dans cette archive. Agnès de Sarthe, vous êtes aussi dans le club des autrices où il y a des jours avec et des jours sans.
Ah oui, oulala. Carrément, oui. Mais j'ai même presque l'impression que c'est que des jours sans. C'est jamais satisfaisant, mais je crois que c'est une grande libération de se dire que c'est améliorable, de pas avoir la fascination du premier jet, de surtout pas trop respecter ce qu'on a fait.
Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de retravail dans votre écriture.
Oui. Mais c'est bien de se dire que c'est toujours sauvable, que presque jusqu'au dernier moment, et même après le dernier moment, parce que maintenant j'ai développé un vice terrible, c'est corriger le livre après qu'il a été écrit.
Mais qu'est-ce que vous faites de ces corrections?
Je communique à mon éditeur, je dis si jamais le livre est réimprimé, est-ce qu'on pourrait mettre rose au lieu de rouge, je sais pas quoi. C'est un jour, il y a eu un livre qui a été ressorti en poche et on m'a dit, je sais plus comment ça s'appelait, ça avait un nom génial.
Voulez-vous corriger?
Rétro-lecture, je sais plus comment ça s'appelait.
Et vous avez sauté sur l'occasion.
Waouh, c'est génial ce truc. Et parce que oui, c'est jamais fini l'imperfection du travail, c'est quelque chose pourquoi j'ai beaucoup de respect. Ça, c'est très important que ce soit pas de pas penser qu'on va arriver à un résultat parfait, parce que ça n'existe pas. Mmh. Et puis parce que c'est beaucoup plus rigolo de travailler quand on cherche pas la perfection, mais quand on cherche plutôt l'invention ou le risque ou voir si on va arriver comme à un truc d'équilibre. Est-ce que je vais arriver à tenir sur un pied, puis combien de temps? Est-ce que c'est très beau quand je suis sur un pied? Bon, bah ça, c'est une autre question, on va dire. Mmh. Et donc, de prendre l'écriture comme une expérience et y aller quand même, en se disant, moi, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand les jours, c'est plutôt, chaque jour, je me dis, j'y vais quand même. Voilà.
D'ailleurs, on peut dire que ça fait quelques années que vous écrivez dans ce qu'on appelle la littérature générale, que vous écrivez aussi parfois en vous adressant à des plus jeunes lectrices et lecteurs, Agnès de Sarthe, et pour qui a la chance de vous lire aussi depuis plusieurs années. On peut dire qu'on reconnaît quelque chose, mais qu'en revanche, on reconnaît aussi que s'invente à chaque fois quelque chose. Alors, ça pourrait être banal de dire ça, mais on a l'impression qu'il y a quand même l'idée que, notamment dans la forme, vous cherchez quelque chose de nouveau.
Oui, j'ai jamais... Oui, je veux jamais retourner là où je suis déjà allée. Je veux toujours faire une nouvelle promenade. Mmh. Et ça, c'est peut-être un défaut, hein, parce qu'il y a des lecteurs qui justement cherchent à lire toujours le même livre. C'est ça qui...
Parce que ça peut être aussi un plaisir.
Ah oui, complètement. Mais je suis pas cette fois-là. Désolée.
On va entendre un dernier extrait de votre roman, L'oreille absolue. Je l'ai dit, c'est un roman qui est poussé par une musique bien vivante, mais il est aussi hanté par la mort, notamment par l'enfant mort et le motif de l'enfant mort. Ici, une femme vient parler à l'oreille d'un enfant dans le coma.
À l'hôpital, l'infirmière, une grande femme au torse court posée sur d'interminables jambes, l'accueillit en lui disant, comme à chaque fois, « Il est calme, d'une voix profonde et douce. » Madeleine baissa les yeux sur le badge agrafé à la blouse. Fatou. Quel prénom ravissant. J'aurais aimé m'appeler Fatou. Il lui semblait que sa vie aurait été plus simple avec un prénom aussi équilibré. Parfois, le binaire était si reposant. Madeleine entra dans la chambre éclairée par un néon bleu qui rendait le visage de Soren encore plus pâle. On lui avait expliqué que malgré le coma, il pouvait l'entendre. Il ne fallait pas hésiter à lui parler, à lui dire des poèmes ou des histoires. Qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter? C'est alors demandé Madeleine. Ça faisait un moment qu'ils ne se parlaient plus. Ils n'étaient pas fâchés. Elle ne ressentait aucune hostilité chez lui et elle n'en éprouvait pas de son côté. Simplement, ils ne trouvaient pas de terrain commun. Aucun sujet ne leur venait à l'esprit quand ils étaient ensemble. Au petit déjeuner, au dîner. Madeleine allumait la radio, Soren mettait des écouteurs. Ils n'étaient pas tristes, pas mal à l'aise non plus. C'était leur nouvelle vie. Leur vie à deux, depuis que Martial, le père de Soren, avait quitté la maison. Amoureux, disait-il. Amoureux d'un collègue de bureau, un très joli garçon, beaucoup plus jeune que lui. Tout le monde s'accordait pour dire que Madeleine avait bien tenu le coup. Certains ajoutaient qu'elle avait un cœur de glace. « Que te dire ? » murmura-t-elle, assise dans le fauteuil en sky, une matière qui pouvait tout supporter, le sang, l'urine et le reste, tout ce qui, sans prévenir, s'échappait parfois des corps hospitalisés. Elle poussa un bref soupir, comme pour se donner de l'élan, et chuchota « Je t'aime », avec un frisson d'indécence. « Ça fait bête de dire ça, hein ? J'ai l'impression d'être dans un feuilleton américain. Pas les séries de maintenant, un feuilleton de quand j'étais petite, de quand j'étais jeune. Je sais pas quoi te dire, mon poussin. Reviens.
Il y a des fantômes dans l'oreille absolue, Agnès de Sarthe, et puis des qui sont entre deux. On va dire que ce corps allongé dans une chambre d'hôpital, il est entre deux, dans le coma. Mais il y a quand même le motif, un enfant noyé, d'un enfant mort, qui peut être aussi, en écoutant Cyril, je me disais, un motif lié à la musique et à des lieds, par exemple, et à l'hiver. Pourquoi est-ce qu'il y a ce fond-là?
Je me le suis demandé.
Ou qu'est-ce que vous en faites si le pourquoi nous intéresse?
Non. Ça, c'est juste que c'est difficile de répondre à certaines questions. Et vous, Marie, vous avez toujours la question tellement aiguë, tellement pointue. Mais c'est bien. Je crois que ce motif, parce que c'est vraiment un motif, l'enfant mort, c'est pour moi ce qui est le plus, c'est la douleur extrême. Donc c'est comme si ça pouvait dessiner une échelle, comme si ça donnait l'étalon de ce qui est possible dans une vie, avec après on peut établir à partir de ça un catalogue de douleurs. Donc c'est une façon, oui, c'est une façon d'étalonner ou de dire oui, c'est ça. Je pense que c'est ça le plus juste, parce que c'est la chose la plus douloureuse selon moi. Et aussi j'ai remarqué que c'était pratiquement impossible, et ce sera peut-être possible dans le prochain livre ou dans celui d'après ou dans celui d'encore après, puisque je change tout le temps, pour moi, de mettre en scène le mal. Un personnage très méchant, quelqu'un qui fait le mal. J'arrive même pas à y penser. Et ça commence à m'intéresser, à me dire, mais pourquoi tu peux pas mettre ça en scène? Alors que j'adore imaginer toutes sortes de choses. Et je sais pas, je pense à des personnages très très méchants, comme Milady, dans les Trois Mousquetaires, vraiment quelqu'un qui s'acharne, quoi. Et c'est passionnant, c'est les meilleurs personnages. Et ben, c'est un personnage qui ne fait pas partie de
votre galaxie pour l'instant.
Non, pour l'instant. Et je me dis, oh, c'est pas mal, j'ai presque 60 ans et je sais toujours pas faire ça. Et donc, d'avoir ce motif qui est un motif très grave, ça me permet aussi, pour l'instant, d'aller dans la douleur, mais sans, j'ai pas encore le méchant, mais au moins j'ai la douleur.
Le book club continue. Et ici, régulièrement, dans le book club, on va partager des initiatives, des rencontres, des festivals, des promenades en lien avec le livre et la lecture. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un programme de résidence. Depuis 2010, l'Amarelle, c'est nom du lieu, accompagne et soutient la création littéraire à travers des résidences d'écriture à Marseille, à La Ciotat et dans les alentours. Selon les années, ce sont entre 20 et 30 autoristes qui sont soutenus par la structure. Et pour candidater, il vous faut envoyer vos dossiers à l'Amarelle jusqu'au 27 novembre. On mettra évidemment un lien sur la page du Book Club. Ça vous arrive d'aller en résidence à Agnès de Sarthe?
Ben non. J'ai toujours eu des enfants.
Mais c'est bizarre de dire ça.
Non, mais je trouvais que c'était plus intéressant d'être avec mes enfants que de partir pendant 3 mois et de ne pas les voir pour aller écrire. Quelle idée. Mais un jour, j'irai.
Bah oui.
Ouais.
Toutes ces choses qui vous restent
à faire. Pour écrire sur les méchants.
Non, quelle joie. Et puisqu'on parlait d'un village grâce à votre roman aujourd'hui, on a reçu un mail de Marie-Agnès ce week-end qui dit, je cite, « J'habite un village rural dans un département rural du Sud-Ouest où la culture rime beaucoup avec l'agriculture et elle attire notre attention. Sur un festival dédié à la nouvelle, ça aura lieu les 13 et 14 septembre à Lozerte dans le Tarn-et-Garonne, avec pour invité d'honneur Beata Oumoubiayi-Mérès, qu'on peut aussi réécouter dans le Book Club. Et puis mea culpa, parce que j'ai découvert ce week-end grâce à un autre auditeur attentif qu'on ne dit pas Morges, mais morge, comme l'orge. Et Agnès de Sarthe, elle a essayé de me faire croire qu'on disait pas Borges, mais Borge. J'étais à deux doigts de la croire. L'agenda est à retrouver sur la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le Book Club se termine tous les jours en cherchant des évocations musicales dans les livres. Nos auditeurs et auditrices sont invités à faire des photos des passages des livres qu'ils lisent. Et à chaque fois qu'un air musical se présente, hop, ils font une photo, ils l'envoient ou bien à Alexandra Labegovitch via le compte Instagram ou bien à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com où vous pouvez aussi nous envoyer vos annonces pour ce petit agenda du Book Club. Donc c'était pas très difficile de trouver de la musique dans votre livre. Agnès de Sarthe, L'oreille absolue, on termine donc avec un extrait qu'on a légèrement coupé. Je joue du piano. Tu voudrais bien chanter avec moi ? Lui avait demandé Jacques. J'ai pas mon brevet, avait confessé Raoul en rougissant. Aucune importance, avait assuré Jacques. La musique et l'école sont deux choses différentes. Les notes, avait-il précisé en montrant les têtes noires et blanches, personnages énigmatiques perchés sur les portées, reliés entre eux par des queues très fines et des barres horizontales plus épaisses qui évoquaient des rails ou des sauvilles, les serrés, c'est pour moi. C'est moi qui les joue. Toi, tu n'auras qu'à chanter. Et il lui avait indiqué les paroles en lui demandant s'il pouvait les lire. Raoul s'était exécuté. Sa diction délicate, son allemand naturel, était déjà de la musique. À mesure que le jour de l'examen approchait, la tranquillité gagna l'accompagnateur. Aucun poids ne reposait sur ses épaules. La montagne de chair portait la musique, le piano et le pianiste. L'un comme l'autre sentait, sans le formuler, que la beauté surgissait, malgré les droits trop peu véloces de Jacques ou leur manque de puissance.
Schöne Welt, schöne Welt! Singt, singt, schön und flink, wie mir doch die Welt gefällt! Auch die Glockenblumen fällt, hat mir lustig guter Dinge, mit den Glöckchen klinge, klinge, klinge,
à la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Le. À la réalisation, c'était Vivien Demeyer. Merci beaucoup, Agnès de Sarthe, d'avoir
merci
été avec
vous,
nous
Marie.
Pour parler de votre livre L'oreille absolue qui est paru aux éditions de l'Olivier. Le temps de remercier toute l'équipe, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Marianne Chassor, Garance Roubieux et Alexandra Alaï-Begovitch qui animent le compte Instagram du Book Club. C'est une des façons de faire partie de la communauté du Book Club. Récemment, un auditeur nous a écrit pour demander comment faire part. Déjà, écouter la radio publique, c'est faire part et faire partie du Book Club de France Culture. Et puis, on a décidé avec Cyril Marchand, juste à côté de moi dans le studio, de si tu le dis, tu l'es, membre du Book Club. Bon après-midi sur France Culture.